Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on réfléchit, on commente l'actualité ambiante. Et cette semaine, c'est le retour de Joanie Riendeau, la femme derrière l'actualité locale.
Non, la femme derrière l'actualité locale, c'est notre Vanessa. Ouais. Moi, je suis une chroniqueuse, ça me fait plaisir. Mais je ne prendrai pas le chapeau de Vanessa qu'elle remplit très bien. Bonjour, Pierre.
Ça va bien?
Ah, ça va très bien. Une grosse semaine quand même au niveau local qu'on va jaser.
Bien, une grosse semaine. Là. Je ne sais pas si c'est l'automne, mais j'ai l'impression que toutes les semaines sont grosses cet automne. Je suis un peu fatigué de plein d'affaires. Mais bon, c'est la vie. En même temps, je suis occupé.
Bien, le mois de septembre a été très exigeant pour tout le monde. Hein? Mm. C'est un retour à la normalité, puis on dirait qu'on a tout compensé ce qu'on a perdu au cours des deux dernières années.
Ouais. Bon, les élections fédérales terminées. Maintenant, on se lance à corps perdu dans les élections municipales.
Encore
perdu. Élections municipales, donc on va s'attarder sur ce qui se passe dans la MRC Maria-Chapdelaine. Bon, on sait qu'aujourd'hui, quand vous écoutez l'émission, c'est déjà passé, là, mais aujourd'hui, vendredi, c'est la date limite pour soumettre sa candidature pour être candidat pour les élections municipales. Je suis un peu... je sais pas, on a seulement 3 luttes à la mairie. Sinon, il n'y aura que des couronnements.
Il y a beaucoup de choses à dire pour les élections municipales de cette année dans la MRC Maria-Chapdelaine.
Moi, je trouve qu'il...
Ce matin, à 9h, aujourd'hui, nous sommes... au moment qu'on enregistre, on est le 1er octobre. Il est 11h. Il est 10h. Et donc, les informations, c'est ceux qu'on a présentement et ça peut bouger beaucoup au cours de la journée du 1er octobre.
C'est important de le préciser.
C'est bien important de le dire. Mais au moment où on enregistre, présentement, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au poste de maire, il y a un seul maire qui reste en poste.
Oui, toutes les autres changent.
Sur 12 municipalités,
c'est vrai que c'est un grand
il y en a un seul qui reste. Donc, le conseil de MRC va changer de visage de manière impressionnante.
Mais surtout, dans toutes les luttes, là, il y a juste 3 municipalités, donc Saint-Thomas, Normandin et Sainte-Jeanne-d'Arc, à date dans ce moment,
oui.
Où il y a des luttes à la mairie. Je trouve ça un peu triste pour la démocratie, moi.
Bien, c'est quand même... c'est très triste parce que là, tu me parles de la mairie, mais il y a beaucoup de postes de conseillers dans plusieurs municipalités qui n'ont aucun candidat. Il n'y a même pas de course. Il n'y a personne dedans.
Ils vont être obligés de revenir, de refaire une course plus tard.
Oui. Donc, des fois, il y a des municipalités, il y en a 3 sur 6 quand le poste n'est pas comblé ou il n'y a pas de candidature au moment où on enregistre. Donc, c'est important. Ça me fait plus mal, ça, que de pas voir de très peu de candidats pour certains postes.
Ben moi je trouve que c'est équivalent là, dans le sens que quand t'as pas de lutte, tu peux pas voter entre 2 visions, donc t'es pris avec une vision que tu veux pas nécessairement parce qu'il y a juste un candidat.
Mais il y a une implication politique d'un individu, alors que quand il y a pas de candidat, c'est qu'il y a pas d'implication politique ou il y a pas d'intérêt de la part de la population ou au moins d'une personne de s'impliquer. Moi je trouve ça encore plus dur parce que lorsque quelqu'un en poste, t'es capable de lui parler, d'exprimer tes besoins, t'es capable d'aller au conseil puis mais si t'as personne en face de toi, qui peut te représenter parce qu'il y a personne qui s'est présenté à ce poste-là, là, je trouve que c'est handicapant pour les citoyens, qu'ils soient impliqués ou non.
Oui.
Donc, c'est...
Oui, mais je suis d'accord avec toi, là. Je dis juste que pour moi, les deux problématiques sont problématiques.
Oui, oui, c'est quand même assez important. Hein? Mais c'est important, ça donne quand même le pouls de notre réalité politique locale. Tu sais, on est une des rares MRC au Québec où notre préfet est élu, donc par les citoyens et
maintenant,
non par les membres.
Maintenant, ça va se faire en Domaine du Roi aussi, c'est intéressant.
Oui, mais c'est ça, le Domaine du Roi, c'est la nouvelle, oui. Il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même, ça indique quand même un changement de paradigme au niveau de la politique locale. Alors que la politique locale, c'est cela où il y a le plus d'impact sur notre vie de tous les jours.
Je te coupe, là, je réfléchis en même temps, ça paraît pas. Hein? Mais à la préfecture, ce qui est intéressant, donc il y a juste un candidat aussi en ce moment, c'est M. Luc Simard qui est candidat sortant. Donc, il va pouvoir peut-être bien aiguiller ou aider les nouveaux maires qui vont arriver à la MRC parce qu'il y aura cette expérience-là de je sais pas.
Bien, ça dépend parce que quand même, les préfets, l'objectif, c'est de représenter le conseil des maires. C'est pas le préfet qui est chef de tout.
Ben alors, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pouvoir aider à dire, ben si tu as besoin d'informations, telle affaire. Il va avoir cette expérience-là parce que si on avait eu aussi un nouveau préfet,
Bien, on serait retrouvé à seulement 2 personnes, peut-être 2 personnes, parce qu'il y a un poste que ça va être par acclamation, c'est la ville de Saint-Stanislas avec le maire Mario Biron, qui est à plus que son 3e mandat. Puis il y a une course, je pense que c'est à Sainte-Jeanne-d'Arc où la mairesse se présente, Madame Denise Lamontagne contre Éther Bolduc. Donc ça reste et Monsieur François Théberge. Donc il y a peut-être deux maires de l'ancienne garde qui vont rester. Donc c'est assez important sur quand même.
Non, parce qu'il faut prendre, quand tu arrives dans ces postes-là, il faut que tu prennes tes repères, il faut que tu connaisses tes dossiers. Puis là, à un moment donné, le fonctionnement de la politique qui n'est pas comme juste connaître ses dossiers.
Mais pas juste connaître les dossiers, puis l'impact de ses décisions sur l'ensemble de la communauté. Parce qu'on a bien beau avoir des opinions politiques individuelles, mais on a, à moins d'être dans le poste ou être dans le milieu municipal, on n'a jamais conscience de tous les impacts qu'une décision peut avoir sur l'ensemble des éléments. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant pour les nouveaux maires, mais ça veut dire qu'il va y avoir une grosse période d'adaptation au niveau des différentes administrations municipales. Donc, c'est important à savoir. Mais il y a quelque chose que moi, je suis contente de voir aussi, même si c'est par acclamation. Sais-tu qu'on va avoir un premier maire issu de l'immigration dans la MRC?
Oui. Oui, à Girardville.
À Girardville, M. Vincent Bécard. Oui. Donc, je suis très heureuse.
Oui. J'ai travaillé avec lors du tournage La Table au bout du lac, parce qu'il est chef cuisinier, vraiment.
Mais un homme très impliqué qu'on rencontre souvent au marché Volbeuf, étant donné qu'il travaille là. Mais ça vous donne quand même une indication à quel point il peut avoir du mouvement, puis c'est intéressant. Il y a des candidats que c'est pas des personnes qui sont originaires du coin pour des postes de conseiller, comme par exemple à Saint-Augustin d'Alma ou encore à Saint-Stanislas. Donc, j'ai quand même des changements. Mais sais-tu, ce que j'ai remarqué, le plus jeune candidat à un poste de conseiller, M. Elliott Lapointe, qui s'est présenté pour le poste 2 à la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, il y a peu de candidats, oui, mais c'est quand même des candidatures intéressantes à voir aller. Comme par exemple, jusqu'à présent, M. André Guy, qui est le seul à être dans la course pour le poste de maire à Dolbeau-Mistassini. Notre collègue Vanessa a rencontré cet homme qui donne quand même une très bonne impression, puis qui, selon lui, est une suite logique de Pascal Cloutier. Au niveau de la gestion. Si Pascal s'était représenté, M. André Guy ne serait pas présenté pour le poste de maire. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant quand même à voir et à observer.
Moi j'ai hâte de voir. J'ai un peu des doutes sur cette affirmation.
Bien, moi, c'est ce qui a été dit lors de l'entrevue par M. Guy. Ce n'est pas mon avis. C'est ce que je veux vous dire. Mais c'est quand même intéressant à observer puis à rester à l'écoute. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi se dire. C'est une phrase qu'on dit, que j'ai entendue souvent, mais je ne sais pas d'où elle vient. Occupe-toi de la politique, sinon la politique va s'occuper de toi. Donc, au moment de l'enregistrement, on n'a pas encore l'ensemble des candidats. Mais chers citoyens de la MRC Maria-Chapdelaine, soyez au courant, renseignez-vous sur vos élections, parce que le local, ça joue beaucoup plus qu'on pense.
Ben oui.
Ça joue autant sur votre réalité de tous les jours, sur les subventions, sur les projets qui vont avoir lieu dans votre municipalité, autant que... Le conseil des maires à la MRC Maria-Chapdelaine a un impact majeur sur les projets d'entreprise majeurs, tous les projets d'envergure, les subventions des organismes à but non lucratif qui passent par la MRC. Bien, c'est le conseil des maires qui décide le budget. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, il faut rester à l'écoute. On est épuisé de la dernière élection qu'on a trouvée inutile. On ne se le cachera pas. Mais...
Bien, inutile, moi, je suis pas d'accord, là, mais j'en ai parlé la semaine passée, mais je reviendrai pas.
Non, on reviendra pas là-dessus, mais pour beaucoup de citoyens, c'est... En tout cas, ça reste quand même que là, on va avoir deux élections back-à-back. Oui, je comprends que c'est épuisant d'être au courant de l'actualité.
Oui, puis surtout que le municipal, souvent, les gens vont moins voter, etc. Moi, je vous dis, allez voter, c'est important, juste pour tous ceux dans le monde qui n'ont pas le droit de vote. Honorez au moins le droit que vous avez, cette responsabilité citoyenne qu'on a d'aller voter.
Et renseignez-vous sur les plans. Parlez à vos représentants. C'est le temps de vous faire entendre. C'est le temps de vous faire comprendre aussi votre réalité, de parler des enjeux qui vous touchent dans votre municipalité. Tu sais, le municipal, ce n'est pas seulement que les poubelles ou l'hydro, tu sais, ou l'eau. Il y a beaucoup plus que ça. C'est quel organisme communautaire on aide. Quelle clientèle? Comment on voit l'attraction des nouveaux résidents dans les prochaines années? Dans quel poste on va donner le plus de budget dans les prochaines années? Quelles sont nos priorités?
Donc, mais c'est pour ça que j'ai un peu... Tu sais, quand tu dis M. André Guy qui a dit que c'est la suite logique, moi, je trouve que leurs agents de socialisation sont très différents. M. Guy a travaillé, pas vraiment pas au même niveau que Pascal, non. Qui vient plutôt du milieu syndical. Je trouve que
alors
déjà
que
M.
Guy, quand même, c'est un monsieur de droit, là. Il vient du domaine du droit.
Absolument.
C'est un avocat. Donc, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même réalité que quelqu'un qui a travaillé directement dans l'usine résolue.
Moi, je trouve, là, c'est pour ça que j'ai l'impression, j'ai la misère à voir comment il peut avoir une conception commune. Je pense que ça va être une autre gestion.
Oui.
Je pense qu'il ne faut pas comparer, là. Ça va être différent.
Je pense surtout que ça va être une question de valeur.
Ouais.
De vision à long terme. Mais sur la méthode, ça va être complètement différent, j'en suis certaine.
Moi, je ne doute pas que les deux ont un amour inconditionnel pour la ville de Boumissassini.
C'est une vision à long terme qui est commune, mais est-ce que les outils vont être utilisés de la même façon? Ça, c'est autre chose. Est-ce que la méthode va convenir à tout le monde aussi?
Ouais.
Quelles sont les priorités? Il ne faut pas oublier que M. Cloutier était quand même un représentant important dans le domaine forestier à travers le Québec. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais soyez à l'affût, soyez à l'écoute. Et même s'il y a des acclamations, ça n'empêche pas que vous avez votre droit de parole. Et c'est le meilleur moment de s'exprimer puis de faire valoir nos points. C'est le temps où on parle politique municipale. Donc, que ce soit par acclamation ou pas, c'est important quand même d'exprimer c'est quoi nos attentes face à ce futur mandat-là. Parce que c'est quand... même si c'est par acclamation, c'est quand même la population qui décide.
Et voilà, et voilà, et voilà!
Il y a quand même, tu sais, mais il y a, j'aimerais souligner certaines choses.
Oui, vas-y.
La mairesse d'Albanel.
Madame Chiasson.
Madame Chiasson. Je ne suis pas d'Albanel, mais j'ai travaillé avec elle dans certains dossiers et je lui souhaite un bon départ dans de bonnes circonstances. Et aussi au maire de Normandin, il y a plusieurs maires qui ont décidé de quitter leur poste, mais c'est les personnes à qui je pense en premier qui ont fait des mandats assez intéressants et impressionnants. Puis ça n'a pas toujours été facile, mais je leur lève mon chapeau parce que la vie politique, c'est très exigeant.
Absolument.
Donc, je lève mon chapeau à tous les maires, mais reste les conseillers et conseillères qui ont décidé de passer le relais pour vos dernières années d'implication dans le domaine politique. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Et on va voir ce que ça va donner dans les
prochaines générations. Nouvelle génération dans MRC Marie-Chapdelaine. On va voir beaucoup
oui.
de changements.
Mais c'est énormément en très peu de temps, parce que dans la même élection, il faut se dire, il y en a juste un qui est par acclamation de l'ancienne garde.
Mais moi, je trouve ça... tu sais, je comprends que ça peut faire peur, là, parce qu'on sent qu'on perd une expertise, mais moi, je trouve que c'est sain. C'est sain de changer de paradigme politique, parce que quand on sait, hein, le pouvoir à long terme, ça use. Puis...
Mais je dis pas que c'est pas sain. C'est surprenant.
Je t'ai pas dit.
J'ai pas dit que ça fait peur non plus.
Je t'ai pas accusé, je t'ai parlé de mon senti à moi.
Mais c'est pas que ça me fait peur, c'est que c'est impressionnant autant de changements dans une même élection. C'est bien important. C'est ça qui m'impressionne le plus.
Ouais. T'es facilement impressionnant, faut dire.
Oui, d'abord.
Bon. Bibliothèque de Boumissassini.
Oui!
On a un nouvel espace.
L'espace libre.
Un café libre-service. Wow! Quelle belle initiative!
Bien, le comité jeunesse de la ville de Boumissassini qui a été créé depuis les dernières élections, avec des jeunes 18 à 35 ans de la MRC Maria-Chapdelaine, de la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est pas 18-35, il faudrait que je me rappelle c'est quoi l'âge exactement.
Okay.
Mais ça reste qu'ils ont fait plusieurs projets. C'est le premier qu'on voit, qu'on a le plus documenté parce qu'ils travaillent sur ce projet-là depuis longtemps. Le but du comité jeunesse, dans leur première semaine, quand ils l'ont dit, c'était de redonner de l'intérêt pour la politique municipale aux jeunes.
Ouais.
Donc, l'espace libre en question à la bibliothèque de Dolbeau a pour objectif, premier, d'accueillir des événements politiques, des événements de sensibilisation politique pour les jeunes avec une place café. Oui, c'est un café libre-service. Oui, c'est dans la bibliothèque, mais c'est aussi l'idée d'avoir un lieu de discussion politique puis un lieu où on peut s'attendre en s'assoyant là, de parler, d'échanger sur des enjeux actuels et sociaux. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai hâte d'aller le visiter. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais dans le cadre de mon travail, Place aux jeunes en région, j'ai beaucoup de mes nouveaux arrivants qui me parlent de cet endroit-là, qui me demandent, c'est qu'on peut-tu faire une prochaine réunion-là, qui sont intéressés, parce que ça devient un lieu rassembleur.
Ben oui, ben oui.
Puis c'est quand même symbolique de le voir à côté de l'hôtel de ville.
Ben oui.
Donc, c'est de l'autre côté de la rue. Donc, c'est intéressant à voir aussi. J'ai hâte d'y aller, de m'asseoir une première fois, puis de voir les gens qui vont le côtoyer aussi. Je veux pas que ça reste un effet de mode. On veut que les gens l'habitent et se l'approprient aussi.
Oui.
C'est le fun.
Ouais, en tout cas, très belle initiative. J'aimerais féliciter les jeunes derrière cette idée. Là. Vraiment, vraiment une belle idée.
Oui.
Dolbeau Missassini encore, politique pour une saine alimentation.
Oui.
Ça va de soi. Ben, et là, on a une politique là, claire là, qui a été définie par la municipalité, c'est ça?
Oui. Je n'ai pas tant de détails que ça sur la politique de la saine alimentation, mais on a vu quand même des actions faites par différentes organisations au cours des dernières années, comme par exemple le verger dans le parc régional des Grandes Rivières, entre Dolbeau et Missassini, dans la Pointe des Pères. Donc, quelles seront les autres actions pour une meilleure alimentation? J'ai hâte de voir, ça va être sûrement... quelles sont les organisations qui vont être entrées là-dedans? Parce que ce n'est pas d'habitude un pouvoir politique municipal, l'alimentation des individus. Quelles sont les actions qu'ils vont poser pour améliorer ça? Est-ce qu'ils vont aider les incroyables comestibles, les bacs de légumes qu'on voit dans les villes, qu'on peut utiliser puis que tout le monde est invité? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour appuyer? Quelles sont les actions pour la saine alimentation? Est-ce qu'il va y avoir des quartiers sans fast-food?
Bien, il y en a déjà.
Oui, mais je veux dire, une législation qui va empêcher... Il y a des municipalités, par exemple, à Montréal, où il y a une distance où un fast-food ne peut pas être ouvert d'un
milieu... De d'une école, mettons.
D'une école, que ce soit un cégep, une école secondaire, une école primaire et autres. Donc, j'ai hâte de voir quelles sont les actions en question.
Oui.
Parce que c'est quand même... La saine alimentation, on mange tout trois fois par jour. Ou en tout cas, on devrait tous manger trois fois par jour.
Quatre.
Donc, on devrait tous manger trois fois par jour. Est-ce que c'est là-dessus aussi? Est-ce qu'il va y avoir un partenariat de la ville pour les petits déjeuners?
Mm-hmm.
Donc, il y a plein de choses. C'est intéressant à voir. Moi, j'ai vraiment hâte de lire en détail.
C'est déjà intéressant que la municipalité soit penchée sur cette problématique-là.
Oui.
Parce que c'est vrai que la ville, c'est un milieu de vie. C'est important aussi, là, la santé alimentaire.
On parle de nos jeunes, mais on parle aussi de nos aînés.
Ben, puis même de ceux entre les deux, là.
Ben oui! Donc, on parle souvent de nos jeunes, mais il y a nos aînés. Puis ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est la Journée nationale des aînés.
Oui, mais on va en parler plus tard.
Oui!
écoute, bon, on a eu un cri du cœur parce qu'il y a un manque de place en garderie. On le sait depuis longtemps. Mais là, ça devient criant, là. Ça devient vraiment très problématique. Là. Qu'est-ce qu'on fait, là?
Il y a énormément de pénuries dans différents domaines. On parle de la pénurie...
Pénurie partout, oui.
Pénurie... Il y a une pénurie partout. Dans le cadre de mon travail, pénurie de logements. Pas capable de trouver des logements pour des gens qui veulent venir s'établir. On a une pénurie de main-d'œuvre, mais j'ai pas de place où les loger.
Non, puis là, c'est avec toi pour les loger, tu n'aurais pas de garderie pour leurs enfants.
Pour leurs enfants.
Ouais, ça devient
puis
un
là,
problème structurel.
Comment, là, j'ai quelqu'un qui vient s'établir, il a trouvé un appartement, mais il peut pas. Sa conjointe qui est éducatrice ne peut pas aller travailler parce qu'elle n'a pas une place pour son propre enfant. Donc, c'est une roue qui tourne, qui est très difficile. Je sais qu'il y a des programmes, il y a des projets présentement pour aider ou pour souligner ou pour encourager les personnes à la maison d'ouvrir des services de garde à la maison. Je trouve ça, c'est une bonne idée. Oui. Mais pour avoir moi-même vécu une mauvaise expérience avec un service de garde, je préfère mieux avoir une pénurie que d'en avoir de mauvaise qualité.
Oui, mais sauf qu'à un moment donné, dans ta vie, là, tu peux pas, tu ne pourrais pas amener ta fille ici. Là.
Non, même si je l'ai déjà fait dans les années précédentes.
Mais
tu sais, c'est pas tous les milieux. Je vois mal un papa apporter son enfant à Résolu.
Oui.
pour
mais
aller
non, mais
travailler.
Moi, l'autre fois, là, puis là, mes enfants sont à l'école, là, mais il y avait une journée pédagogique, j'avais pas de ressources, j'étais obligé d'amener mes enfants au travail. C'est juste
mais
compliqué.
Mais on parle quand même d'une. Quand on parle de rareté de main-d'œuvre, ça touche tous les domaines. Mais c'est vraiment tous les domaines. On parle de tous les milieux. Puis,
mais les garderies, c'est essentiel parce que si tu peux pas aller. Si tu n'as personne pour ton enfant pour s'en occuper, tu vas être obligé de rester à la maison. Donc, tu ne pourras pas pallier à une pénurie de main-d'œuvre ailleurs en allant sur le marché du travail. Tu comprends?
Ça nuit aussi à l'implication, on se le cachera pas, ça nuit à l'implication féminine dans le milieu social puis dans le milieu professionnel aussi, parce qu'on ne se le cachera pas présentement, c'est surtout les femmes qui vont rester à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, on diminue de beaucoup notre capacité professionnelle, notre capacité d'emploi ou de travailleur sur le marché. Donc, c'est assez important. Mais est-ce qu'il y a une solution magique? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Mais au niveau de la législation, lorsque tu veux ouvrir un service de garde en milieu familial, il faut que ça soit dans ta propre maison et que ça réponde à énormément de critères de sécurité. Mm-hmm. Les critères sont tout à fait légitimes. Mm-hmm. C'est tout, tu sais, maintenant, il n'y a plus d'affaire d'avoir une garderie dans le sous-sol. Il faut que ça soit au même étage que la vie. Il y a, donc, il y a la clôture autour de, la clôture autour des jeux. Tout à fait naturel, tout à fait normal. Mais moi, où ce que ça me bloque, c'est qu'on a quand même beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides présentement.
Ouais.
Qui seraient sécuritaires, qui seraient intéressants, qui accommoderaient beaucoup de personnes. Puis des éducateurs, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une maison, parce que tu peux pas faire ça dans une maison louée. Il faut que ça soit, que tu sois propriétaire.
OK.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait regarder avec le gouvernement, avec les CPE, pour... parce que là, présentement, la loi ne le permet pas. Mais ça pourrait être un projet pilote très intéressant pour des CPE ici, de faire une demande au gouvernement, dire un partenariat, par exemple, avec Résolu ou un gros employeur, dire « vous louez le local, puis nous, on vous met une éducatrice dedans ».
Oui, parce que là, ouais.
Comme là, à ce moment-là, on enlève… on peut s'assurer que les locaux soient adaptés. On peut, tu sais, les locaux commerciaux, il y a des toilettes.
C'est des belles propositions parce que là, il va arriver de l'argent aussi là, du fédéral, là, 6 milliards pour les garderies, là. J'espère qu'on ça va pouvoir débloquer.
Puis si, un partenariat avec...
Si on n'a personne pour travailler dans les garderies, même si on
mais,
en fait 10 000.
Mais attention, là. Si on n'a personne, mais des fois, on a des gens qui sont compétents ou une formation qui est compétente, mais qui ne rentrent pas dans le critère d'être propriétaire de la maison ou le service de garde. C'est ça aussi, parce que ouais. Dans le service de garde en milieu familial, il y a plusieurs types de formations. Puis il y en a une que c'est une formation de 3 jours, une fin de semaine. Pour être capable d'avoir son propre service de garde à la maison. Donc, il y a plusieurs panoplies, il y a plusieurs options disponibles. Donc, s'il y a des gens qui sont formés, mais qui ne sont pas propriétaires de leur maison, ils peuvent juste faire des remplacements. Alors qu'ils seraient disponibles
ouais.
Pour le faire. Mais il faut un local qui est alloué, mais il faut que le local réponde aux critères du gouvernement. Puis le local, présentement, pour les services de garde en milieu familial, il faut que ce soit dans leur maison. Alors, s'il y a des partenariats, par exemple, l'hôpital qui dit « oui, le nom, tu sais, oui, on va louer un local dans une place à côté de l'hôpital qui va aider tous les employés. » Le nombre de places qui vont se libérer dans les autres services de garde parce que ça va être dans le milieu de l'hôpital, ça va libérer
ça
dans
risque,
d'autres.
Ouais.
Ça fait un effet domino intéressant. Par exemple, aussi, ceux qui vont à la SAAQ, vous voyez qu'il y a une pièce vide à côté, un local commercial. Il est à côté du centre d'achat. Il est à côté du marché Walberg qui pourrait avoir un traiteur pour nourrir les petits. À côté d'un parc avec la maison des jeunes.
Mon Dieu,
les employés de Résolu, c'est sur leur chemin de laisser les enfants là. Puis c'est un beau local, il est vitré, puis ça serait un domaine. Sinon, les employés du centre d'achat Walberg, du centre d'achat. Ça, je parle d'un local que moi, je vois tous les jours parce que je travaille au deuxième étage, mais il y a plein de locaux commerciaux vides comme ça. T'sais, il y a des locaux commerciaux à même le centre d'achat, puis il y a des employés dans le centre d'achat. Ça serait le fun pour les employés de voir leurs enfants qui jouent dans un des locaux qui sont capables.
Avec eux autres. Ou, pas...
Donc, c'est quand même, mais présentement, avec la législation qui est tout à fait légitime, comment on doit faire preuve d'innovation puis de créativité pour répondre à ce besoin-là tout en gardant la qualité du service de garde?
Oui, c'est dur d'innover quand justement les règles sont très...
Mais les règles ne sont pas là pour rien. Les règles ne sont pas là pour rien.
Non, je comprends.
C'est un peu
parce que quand tu veux innover, souvent tu es confronté à ce paradigme-là qui fait non, les choses doivent se faire comme ça. Fait quand tu essaies d'innover, ben tu veux changer les manières de faire. Puis souvent, tu te butes à cette administration publique-là qui est pris dans son paradigme de « bon, non, ça se passe comme ça, monsieur ».
Mais c'est un peu pour ça qu'il faut sortir du cadre dans
oui,
ce,
mais
dans
pour
ce
sortir
cadre-là.
Du cadre?
Il faut des organisations comme le bureau coordonnateur des CPE, parce qu'il y a les CPE puis les bureaux coordonnateurs des services de garde en milieu familial. Il y a toute une administration là-dedans. Bien, c'est au bureau coordonnateur de créer un projet de demande de subvention puis pour un projet pilote de ce type-là. Parce que je verrais très mal le CIUS dire « non, on ne veut pas participer à ça », alors qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre parce que les infirmières ne peuvent pas travailler à cause qu'il n'y a pas de garderie, parce qu'il n'y a pas de service. Des médecins qui veulent s'en venir dans la région me disent « j'ai pas de place en garderie, je ne peux pas travailler ». Ça arrive, là. Donc, on... Ça,
T'sais, ça serait un début de solution pour beaucoup de choses.
Hein. Ça serait pas juste un début de solution, ça serait un outil d'attractivité pour les employeurs aussi. Parce que si tu es moins payé, mais que tu es garanti d'avoir une place en garderie pour ton enfant...
C'est un beau bonus, là.
C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est innovant et qui coûte pas mal moins cher qu'une augmentation salariale. Mm-hmm. Parce que l'allocation du loyer va rester le même.
Oui, c'est ça.
Puis l'éducatrice, ben ça va être on veut que ça soit un milieu subventionné, donc ça reste le même prix.
Ouais.
Donc tu sais, ça donne quand même plusieurs opportunités puis quelque chose de très intéressant.
C'est une belle idée que tu as.
Donc ça, elle vient pas de moi.
Mais c'est pas grave, moi je
pense que ça vient pas de moi, ça vient d'une organisation puis je dirais pas laquelle parce que c'est en construction, mais c'est des choses que on parle d'innovation, de choses intéressantes. Dans le passé, il y avait une éducatrice qui a fait un projet d'une garderie à horaire atypique.
Oui.
Puis, c'est un projet très intéressant que j'encourageais énormément, mais on m'a fait voir un autre angle de vue qui est la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi la gestion des ressources humaines au niveau des éducatrices. Déjà, on a la misère à trouver des éducatrices pour du 7 à 5. Mais du 5 à minuit, puis du minuit à 7, essaye de trouver d'autres éducatrices.
Oui.
Donc,
je pars avec moi le chiffre de minuit à 7, là, t'endors un bout.
Mais le but, c'est d'être présent et d'être capable. Tu sais, tu n'as pas d'intervention auprès des enfants de minuit à 7, là, on s'entend. Là.
Bien, tu es
fait déjeuner. Bien, tu fait déjeuner, tu as le changement de couche, changer les lits s'il y a quelque chose, mais là, il faut que tu désinfectes les lits à chaque soir. Ouais. Donc, avec la pénurie de main-d'œuvre, bien, c'est comme l'objectif ultime. Parce qu'une garderie comme ça, c'est encore mieux, là. Là, les ambulanciers, les médecins, les infirmières...
Ouais, ceux qui sont sur les chiffres, là.
Tous ceux qui sont sur des chiffres non atypiques, c'est génial, là. Ça pourrait être même privé, je suis sûre que ça marcherait, tu sais. Donc...
Non, puis là, tu parles de gros jobs, là, mais il y a des gens qui travaillent, mettons, au dépanneur la nuit ou qui
font... Tim Hortons, McDo, ça serait au privé, puis ça marcherait.
Oui.
Ça serait au privé, ça marcherait. C'est assez particulier. Les parents monoparentales qui travaillent de nuit ou qui travaillent à des horaires qui ne fitent pas. T'sais, des fois, là, c'est juste que tu commences à 5 h le matin. Pas de garderie qui est ouverte à 5 h le matin. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, mais le défi est multiple. Les locaux, la législation, les professionnels, l'intérêt,
l'argent.
La participation du milieu.
L'argent.
Et l'argent. Bien, l'argent... L'argent, quand le projet est bien fait, quand il y a des partenaires du milieu, quand on fait des demandes de subvention, peu importe le projet, si tu démontres que c'est un besoin du milieu, qu'il y a des partenaires qui vont investir temps et argent, que des bénévoles, que ça a été étudié, je n'ai jamais vu un projet bien ficelé qui a été refusé. Mais quand on dit bien ficelé, c'est bien ficelé. Là, c'est
faux.
Plus que ça. Bien plus que ça, là. On parle d'une tapisserie, là. Il faut que ça soit tout bien placé, que tout soit bien fait et qu'on ne demande pas 90 % du financement, là. Ouais. Donc, lorsqu'un partenaire de milieu, puis on dit « Notre projet est structuré, le bout qui reste, c'est on veut votre appui puis on veut que devienne un projet pilote », c'est très rare que ça ne marche pas. Au contraire, lorsqu'on va parler à des conseillers qui sont responsables, parce que c'est toujours des conseillers qui analysent les subventions, quand c'est bien suffisant puis il y a des petits accros, ils vont nous appeler puis dire « Voici qu'est-ce qui ferait... »
Qu'est-ce qui ferait la différence?
Qu'est-ce qui ferait la différence? Travaillons-là ensemble. J'en ai déjà parlé avec les personnes responsables de distribuer le budget. Si vous faites ça, on va l'accepter.
Ouais.
Donc, tu sais, il ne faut pas se dire que le gouvernement ne veut pas. C'est des fois, ils ont des critères à répondre.
Oui, puis des fois, le gouvernement ne veut pas, puis c'est son droit aussi. Ouais. Hey!
Un autre sujet.
Un autre sujet. Non, pas d'autre sujet, parce que là, on s'en va à la pause.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle.
Drax? tienne.
Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner.
Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode.
Ça manque d'art d'ici, ici et ici. Et si on retrouvait l'art d'ici, ici, ici, ici aussi et ici?
On est de retour, on a fait une super pause, t'as ton café, tout est beau, on est prêt à rentrer dans quand même un gros sujet.
Mais avant de rentrer dans le sujet, je dois dire, c'était très drôle de voir pendant la pause les deux collègues du studio, l'ambiance de l'Halloween s'en vient parce que deux collègues dans le studio qui parlaient des films d'horreur et des grands classiques. Donc je vous invite à regarder la série que tu animes.
Vidéo terreur.
Donc,
saison 3, c'est en ligne.
Donc continuons notre émission, oui. Fallait que je le dise.
Mais là, gros sujet parce que c'est un sujet qui divise malheureusement. Mais moi, j'ai le goût de ne pas le diviser, mais de le mettre ensemble et de trouver ça beau. Journée de la réconciliation.
Oui.
C'est un jour férié maintenant au niveau fédéral.
Oui.
Au niveau provincial, on a décidé que c'était pas ça. Bon, ils ont raison, je veux pas les juger. Maintenant, ça prend de l'ampleur. Moi, je vais y aller avec les beaux côtés. Là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je pense à ce que Sabrina Trottier a fait au Cégep de Saint-Félicien. Écoute, il y avait des rencontres, il y avait plein de gens à discuter. Partout dans la région, on a nommé, bon, les un an de la mort de Joyce Echaquan. Je trouve que ça a vraiment mal été récupéré par le politique, tout parti confondu, qui ont fait des chicanes de ruelle là, à propos de quelque chose où plutôt, je pense qu'il fallait être plus solennel puis plus dans le respect. Puis la compréhension et la pédagogie de tout ça. Moi, j'étais un peu tanné là, de débats sémantiques sur la nature des mots, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis que... Non, mais maintenant, il faut nommer les affaires, il faut les accepter. Puis je trouve que nos politiciens ne se sont pas élevés. Moi, ce que j'espère de mes politiciens, c'est qu'ils s'élèvent au-dessus du débat, puis qu'ils se montrent plus intelligents. Puis là, j'avais l'impression de voir une guéguerre de chats de ruelle. Là.
Non, il n'y avait pas de débat de fond, là.
Mais moi, non, vraiment pas. Mais revenons maintenant à cette journée fantastique de réconciliation. Bien, fantastique, j'en rends ça comme si c'était le carnaval, mais c'était pas le carnaval, c'est une journée de recueillement, de compréhension, d'échange, de tisser des liens, puis d'essayer de comprendre la réalité des Premières Nations, ce qu'on a très pas assez fait. Hein. Tu sais, je veux dire, là, il y en a qui sont tombés des nues cette année avec l'histoire des pensionnats, mais je m'excuse, les pensionnats ils existent depuis 1844. Ils ont été fermés en 1996, le dernier. Puis la première fois que c'était dénoncé, c'est 1922. Et en 1922, quand ça a été dénoncé, la personne qui l'a dénoncé, on l'a mis dehors du gouvernement et le ministre responsable des Autochtones à l'époque a dit quelque chose de complètement dégueulasse. Donc, ça fait longtemps qu'on est au courant. On a fait le choix de rien voir. Maintenant, la population est comme sous le choc. Puis j'ai l'impression que c'est positif dans le temps. Puis je veux pas tomber dans l'idée du racisme, là. Est-ce que les Québécois sont racistes ou non? Il y a des Québécois racistes, il y en a qui le sont pas. C'est pas ça la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer? Moi, j'ai pas le goût de regarder en arrière. C'est très difficile. Bien, je pense que c'est important. Je m'excuse de ce que je dis. Je pense que c'est important de regarder en arrière, de le comprendre. Mais moi, ce que j'ai le goût, c'est de tendre la main et de dire où est-ce qu'on va ensemble.
Arrêtons de regarder des excuses, trouvons des solutions.
Ouais, c'est ça.
Arrêtons de trouver. Parce que c'est...
Et là, nous, on parle un peu à travers notre chapeau, hein, je veux le dire, parce qu'on n'est pas des Premières Nations ni l'un ni l'autre. Mais moi, je trouve vraiment, j'ai mon chandail, tous les enfants comptent.
Et c'est vrai.
Et c'est vrai.
Puis, tu sais, notre but aujourd'hui, dans un monde idéal, on aurait invité des gens de la communauté, mais dû à certaines circonstances, on ne peut pas, mais notre but est présentement d'être des alliés. Donc, on peut parler Absolument. Des éléments, mm-hmm. mais les meilleures personnes pour parler de la situation autochtone, c'est les membres de nos communautés auxquelles on a accès. Donc,
Les écouter, hein? Arrêtez de commenter puis de donner votre avis. Là. Écoutez, pour une fois dans votre vie, là. Écoutez. Comprenez, c'est tellement important.
On a la chance quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir la communauté de Massoyage qui est très ouverte et impliquée dans notre vie, autant politique que sociale. Et on a la chance de pouvoir discuter, d'avoir cette ouverture-là, d'avoir
la
musique.
Proximité.
C'est, au mois d'octobre, profitez-en. Allez au musée de Massoyage. Parler avec les gens.
C'est la petite visite guidée là, dans le bois là, où on nous explique tout ce qu'on pourrait faire, comment les médicaments. Ce savoir ancestral-là, c'est génial.
Et
là.
Les différents sites qu'on peut retrouver sur Massoyage, ouais. parce que le 30 septembre dernier, il y a quand même eu une activité de pour souligner la journée avec des pierres. J'ai trouvé l'image très forte. Apporter une pierre à l'édifice. Mmh. Apporter l'activité qu'ils ont décidé, c'est une pierre de la taille d'une main. Que les gens pouvaient personnaliser, mais le but, c'était de créer un mur dans le parc Inatch qui se trouve à Massoyage, où le mur va servir de fond pour des activités culturelles de sensibilisation ou de réalité à parler des pensionnats. Il faut se dire que dans les dernières années, les pensionnats, c'est une des graves blessures intergénérationnelles mm-hmm. qui a touché énormément de communes. Personnes dans la communauté qu'on l'ait vécu ou non directement.
C'est 150 000 enfants là, qui ont été dans les pensionnats et combien ne sont pas revenus?
Ouais, c'est ça. Combien ne sont pas revenus? Combien de pensionnats combien on va découvrir de macabres situations, des tombes cachées, des... Puis, tu sais, on parle des pensionnats, mais il y a aussi les enfants qui ne sont jamais revenus de séjour à l'hôpital. Donc, on ne parle pas juste des pensionnats, on parle vraiment de plusieurs réalités que les communautés autochtones ont pu vivre. Puis même on parle beaucoup des pensionnats, mais des femmes qui ont vécu des... sans consentement. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faut donner la parole. Puis, au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, beaucoup de personnes disaient « passe à autre chose, arrête d'en parler, on est capable. » Le 30 septembre de chaque année, ça va être l'occasion pour les personnes de le dire, de l'exprimer et d'avoir le droit, de reconnaître le droit d'avoir vécu un drame et un trauma en tant que communauté, puis de le dire.
Puis c'est pas parce que les gens en parlent pas tous qui n'ont pas vécu des choses, parce que des fois, ils n'ont pas nécessairement le goût de prendre la parole en public.
Non.
Mais ils vivent quand même un retour à ces traumatismes-là, dans ce qu'on appelle un peu le choc post-traumatique. Là.
Puis tu sais... c'est une phrase qui m'a marquée. Dans un cours de secourisme, on parlait à propos des traumas des secouristes, mais je trouve que c'est n'importe quel trauma doit rester, c'est « ce qui ne se dit pas s'imprime oh. ». Donc, il faut laisser les gens, il faut laisser les membres, les victimes, direct ou indirect, le droit d'exprimer tout ce qu'ils ont, puis d'exprimer comme ils le veulent aussi. Il n'y a pas d'affaire de « politically correct », là. Il n'y a pas d'affaire d'être correct politiquement puis de dire les bons mots puis on n'a pas le droit. Non, il faut le dire. Il faut l'exprimer pour que les personnes qui l'ont vécu puissent se le réapproprier à la manière dont ils le veulent. Donc, on a bien beau dire, on n'est pas des psychologues. Les psychologues vont vous le dire, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, lorsqu'on a un cheminement à faire, il faut le faire en accord avec soi, envers sa culture puis envers sa personne. J'ai entendu aussi cette semaine l'artiste Elisapi, Isaac, dire « J'ai hâte, il y a des traumas à passer, il y a du côté noir, mais j'ai hâte qu'on voit toute la lumière dans les communautés autochtones. » Parce qu'il y en a beaucoup.
Ah, absolument, c'est très effervescent en ce moment, c'est génial, là.
Donc,
ils sont en train de revaloriser,
puis on leur laisse
leur retour à être fiers d'être ce qu'ils sont, tu sais.
D'être fiers, de l'assumer, d'être accueillis, d'être... Donc, tu sais, on va être beaucoup dans le souvenir, dans la réconciliation. Mais ça laisse la place à la lumière aussi. Arrêtez de regarder que la situation des Autochtones, que ça fait donc bien pitié. Ça ne fait pas pitié. Ils ont vécu des traumas, ils ont le droit de vivre leur trauma. Ils ont le droit, puis on doit l'écouter. Parce que si on n'écoute pas l'histoire, on peut la répéter.
Oui. Puis là, tu sais, on voit, entre autres, la session des évêques du Canada là, qui se sont excusés, qui vont donner de l'argent, mais je trouve ça...
C'est trop peu, trop tard.
Ben absolument, là. Moi, là, ça fait être le pape, ça ferait longtemps que je serais venu me mettre à genoux, là, ici, là, pour... tu sais, je sais pas, là. En plus, avec toutes les richesses qu'il y a au Vatican, ils pourraient aider pas mal plus que ce qu'ils vont donner là, là. Non, mais...
C'est trop peu, trop tard, mais au moins, c'est quelque chose. Tu sais, au moins. Mais j'espère que ça sera pas la dernière affaire. Mais... prenons le temps, tu sais, on a une grande tendance à parler beaucoup. Et moi, la première, regardez, je participe à une émission de télé. Hein? Je parle beaucoup.
C'est vrai qu'elle parle beaucoup.
Je parle beaucoup. Ceux qui me connaissent à l'extérieur de la télé, je parle énormément. OK?
Je n'existe plus.
Mais ouvrir nos oreilles, être à l'écoute. Puis quand je dis de l'écoute, c'est pas juste entendre des mots, mais ressentir, poser des questions.
Comprendre, avoir de la sympathie, de l'empathie.
Puis s'ouvrir à une vision complètement différente de notre réalité, de notre histoire, de notre... Ça va faire toute la différence sur les années à venir. Il faut se dire que nous, notre génération, on va avoir vécu toute cette transition-là entre le « on n'en parle même pas » à « c'est au-devant de la scène ».
Oui, puis il va y avoir des gros changements. Moi, je pense entre autres au manuel scolaire sur les cours d'histoire, là. Les Premières Nations, c'est beaucoup plus que les Maisons Longues puis Brébeuf, le Saint-Martyr. Là.
Bien, c'est plus que le colonialisme. Puis maintenant, il y a toute une histoire.
Bien, il y a toute une histoire. Puis je pense qu'il faut les rendre fiers, les écouter. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais je pense que juste prendre le temps de les écouter, là, puis de comprendre cette réalité-là, qui est différente de la nôtre. Nous, on est les colonisateurs dans tout ça, là. Faut dire les vraies affaires.
Oui.
Puis j'ai hâte aussi que dans les livres d'histoire, on arrête de dire que Jacques Cartier a découvert le Canada. Là. Il y avait des gens qui habitaient ici depuis 10 000 ans.
Ben oui.
Il
n'y
a rien découvert. Là.
Non. Il y a europisé, je ne sais pas comment dire, occidentalisé, colonisé. Il y a occidentalisé un milieu de vie qui était déjà habité par des communautés depuis des millénaires. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est l'ethnocentrisme, là. On est en train de prendre conscience de notre propre ethnocentrisme aussi.
Oui, puis en fait, il y a ça. Puis après ça, bien, il y a une espèce d'équité nord-sud qu'il va falloir trouver aussi entre les riches et les pauvres. On en parlera
tantôt. Là, on parlait des choses du passé, mais encore des réalités. Les femmes autochtones qui sont mortes ou assassinées. Il y a plein de choses qui sont... Tu sais, on ne parle pas juste du passé, là. On parle quand même de réalités d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes dans les communautés, puis il y a du racisme dans des communautés, mais c'est pas parce que tout le monde est raciste, c'est pas parce qu'il n'y a pas personne qui l'est. C'est pas un débat sémantique qu'on recherche, c'est un débat de société.
Non, puis là, c'est rendu un débat sémantique au niveau politique, puis c'est un peu désolant, là. À un moment donné, je pense qu'il faut reconnaître des affaires, puis aller de l'avant, là.
Puis attendre aussi...
Faire la pédagogie de qu'est-ce que le racisme
systémique. Il faut arrêter aussi d'attendre. Là, c'est le fun parce que là, on va avoir une journée dédiée, mais il faut arrêter d'attendre que le politique nous donne une journée de congé. Chacun pour soi, on est capable de faire une action individuelle pour donner le plein pouvoir aux personnes qui ont vécu, qui ont besoin de cette réconciliation, de cette vérité-là. Mm-hmm. Donc, que ce soit de confronter le racisme dans nos milieux, que ce soit de porter le chandail orange parce que les fonds vont dans différentes organisations, que ce soit d'aller visiter le musée de Massillat, que ce soit qu'une organisation invite une personne d'une communauté autochtone pour parler de la réalité.
Que aussi, ce soit de reprendre...
D'être des alliés.
Oui, que ce soit aussi des fois de reprendre dans vos soupers de famille ou dans vos conversations avec des gens que vous connaissez, de faire comprendre aux gens qui ont encore des comportements racistes que...
C'est pas des Indiens, c'est des Amérindiens.
C'est des Premières Nations.
De toute façon,
là, nous, on est les premiers. Hein? Moi, je suis le premier, là. Je suis vraiment comme ça. Moi, tu me dis, je m'en vais à Montréal, tu dis, ah, tu viens du Saguenay? Non, je viens du lac. Je suis le premier à vouloir dire que je viens du lac et pas du Saguenay. Mais, écoute, personne n'est capable de nommer les communautés des Premières Nations puis de dire, ouais, les Abénaki, les Mi'kmaq, les Inuits, les Inuits. Tu sais, donc, je pense que
je te dirais les Premières Nations, mais quand quelqu'un dit, je suis Atikamekw, dis pas que c'est un Amérindien. Il veut être identifié comme Atikamekw, c'est un Atikamekw. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de... C'est comme ça que tu t'identifies, toi. Je vais respecter ton identification. Puis c'est ça, c'est bien important. Et là, on parle avec un grand ton solennel, mais la beauté aussi des powwows, la beauté des échanges culturels.
C'est malade, les régalias, les costumes, wow! Moi, j'ai été sous le choc. Ma fille, là, Elle veut y aller toutes les années. Elle trouve donc bien ça impressionnant. Les danses avec les costumes tout colorés, c'est tellement
les
beau.
Les contes, il y a tellement une richesse culturelle qui est à proximité de nous. Donc,
on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde là, pour rencontrer d'autres cultures. On en a ici. Là.
Puis se renseigner sur qu'est-ce qu'un bon allié. Parce que moi, c'est dernièrement que j'ai eu une formation puis je me suis aperçue que, hé, tabarnouche, j'en étais pas une aussi bonne que ça. Mais se renseigner sur c'est quoi être un allié, bien, c'est déjà le fun. T'sais, faut pas juste dire « Ah, je soutiens les communautés ». Non, c'est aussi se dire être un allié, c'est privilégier l'art de, au lieu de parler à la place d'une personne de la communauté, inviter une personne de la communauté.
Oui, oui, bien, même affaire avec les gars et les filles, là, le mansplaining, là, tu sais, parler à la place de nos,
des femmes. Il y a un homme qui parle de la situation des femmes, invite une femme.
Ouais.
Mais comme, c'est pour ça que moi, je suis un peu mal à l'aise de parler de la communauté autochtone, parce que je ne suis pas membre de d'une communauté. Je ne peux pas, j'ai côtoyé, mais je trouve qu'il y a des personnes qui seraient tellement mieux que moi pour parler de la réalité dans les communautés.
Fait notre petit bout aussi pour essayer d'ouvrir le débat, en fait, là, d'ouvrir amener les gens à avoir une ouverture face à ça. Là, je pense que c'est essentiel là, de laisser de côté les préjugés qu'on a entendus. Puis moi-même, là, quand j'étais petit, là, c'était véhiculé, puis on prenait ça comme des vérités, mais je pense qu'en s'informant, on réalise qu'on était beaucoup dans l'erreur à travers...
C'est pour te dire, dans la boussole électorale fédérale, ça m'a marqué parce qu'il y avait une question. Pour savoir, la boussole électorale fédérale d'ici Radio-Canada, là, pour savoir dans quel parti tu pourrais aller. Puis il y a une question en particulier sur les 15 qui m'a marquée. La question était, selon vous, est-ce que les communautés des Premières Nations devraient avoir un droit de regard sur les projets demandant les ressources naturelles du Canada?
Mm-hmm.
C'est une question à se poser là, quand même.
Bien, c'est parce que moi, ce que j'aime pas de cette question-là, c'est que les communautés des Premières Nations sont des citoyens, mais nous aussi, on est des citoyens et nous, toute la population devrait pouvoir dire comment on exploite nos ressources naturelles. C'est anormal que dans un pays comme le Canada, on demande encore juste 3,5% de redevances aux minières quand il y a des pays qui sont à 20-25%. Je veux dire, on exploite leur sous-sol quand même. Là.
Mais c'est pour ça que la question m'a marqué. La question m'a marqué parce que c'est encore une division sociale.
Ouais.
Alors que le but, c'est d'avoir une reconnaissance nationale, puis mais d'avoir...
Que tout le monde soit des citoyens à part égale.
C'est ça. Donc, tu sais, c'est pas qu'une communauté ait plus de pouvoir que d'autres, mais que toutes les communautés aient l'écoute des autres.
Ouais, ben je pense que ça fait le tour, là. Non, mais tu sais, on pourrait en parler longtemps parce que je pense qu'on... Moi, j'ai été très touché, là, par... Il y a plein de films, de documentaires, je vous conseille Cheval indien, film, documentaire, Je m'appelle humain, Québécoisie. Il y en a énormément. Vous fouillez, informez-vous, lisez.
Marie-André Guil,
une autre. On parle encore de Michel Jean. Si vous voulez comprendre la réalité des pensionnats, je veux dire, c'est dur, mais c'est là, Coucoum, on en a plein, là. Les poétesses, il y a maintenant des émissions à audio, à Radio-Canada, en lien avec les Premières Nations.
Il y a toute une section autochtone sur ICI Radio-Canada Première. Sur ICI Radio-Canada, si vous voulez avoir, il y a toute une section sur les Premières Nations. C'est réservé aux nouvelles des Premières Nations, à la réalité des Premières Nations. Donc, c'est une excellente façon de s'initier.
Puis, écoutez pas ça pour juger, écoutez ça pour comprendre.
Ben oui.
C'est ça. OK. Lâchons ce sujet riche pour s'en aller vers la journée des aînés. Parce que là aussi, c'est aujourd'hui, journée des aînés, 1er octobre. Donc, c'est important, les aînés, hein, parce qu'ils vivent de la solitude, ils vivent... la solitude, je pense que c'est le gros poids sur leur vie, là.
Dans les deux dernières années, avec la situation qu'on connaît, ils ont vécu... ça ne pouvait pas être plus mis de l'avant que l'isolement de nos personnes aînées.
Ouais.
Puis, les personnes aînées, là, on va peut-être commencer par une première définition de qu'est-ce qu'un aîné.
Je te laisse. Je ne touche pas à ça.
Ça dépend des ministères, ça dépend de bien des organisations, mais moi, dans le cadre de mon travail, dans un précédent chapeau que j'avais, j'aidais le renouvellement de la politique MADA, Municipalité Amie des aînés. Et les aînés, c'est considéré 55 ans et plus, donc les clubs de l'âge d'or, mais c'est aussi, ça ne veut pas dire que des aînés, c'est des personnes en perte d'autonomie.
Mais non.
Mais c'est important de le souligner parce qu'encore, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui disent « je ne suis pas un aîné parce que je suis encore active, parce que je fais du bénévolat, parce que je suis en semi-retraite ». Donc, C'est la première chose qu'il y aurait à démystifier, c'est l'âgisme face à la définition d'aîné. Un aîné, c'est pas une personne en perte d'autonomie.
Non, mais non, parce qu'il y a, des gens qui sont pas vieux, qui sont en perte d'autonomie, là.
Il y a des gens qui sont dans la catégorie aînés et qui ont beaucoup plus d'énergie que toi puis moi.
Bien, moi, mon père, il fait encore 2000 km de vélo par été. Il va avoir 76 ans. Il est très en forme, mais ma mère étant décédée, il vit seul. Fait que nous, on est beaucoup, tu sais, moi, je l'accueille quand il veut, puis il vient souvent à la maison. Mais c'est sûr que dans son quotidien, bien, des fois, la seule personne à qui il parle, c'est le commis du dépanneur. Hein.
Oui, puis tu sais, donc, c'est quand même important de souligner la réalité de nos aînés. Mais nos aînés aussi sont très impliqués, puis ils peuvent encore plus s'impliquer. Par exemple, on a présentement une rareté de main-d'œuvre. Mm-hmm. Il y a beaucoup de postes qui demandent du temps partiel. D'avoir des gens qui ont de l'expérience, du temps partiel ou non. Mais présentement, au niveau politique, il y a une personne qui va retourner sur le marché du travail et pénaliser sur sa pension de vieillesse.
Mais non, c'est ça, c'est que c'est pas avantageux, ils vont aller travailler pour pas faire d'argent.
Tu sais, les journées, là, c'est pas juste pour souligner, là. C'est le temps de penser aux politiques entourant les communautés. Mmh. Donc, les aînés ont des situations qui ne rendent pas avantageux pour eux de continuer à participer à la société. Tu sais, par exemple, en rareté de main-d'œuvre, les emplois étudiants d'été, moi, j'aimerais ça. Moi, que le guide touristique soit un homme de 65 ans qui connaît la région, qui a plein de contes à me raconter à propos, plein d'histoires, plein d'anecdotes à propos de la communauté quand j'arrive au camping.
Mais, oui, mais au terrain de jeu, ça se peut qu'il rushera un petit peu.
Oui, au terrain de jeu, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu sais, à l'entretien du parc régional des Grandes-Rivières,
ouais.
Tu sais, tu le croises puis tu te racontes, ah oui, si, t'es arrivé de telle affaire, ou encore... on voit de plus en plus aussi de personnes dans les fast-foods, les personnes aînées ou des personnes en semi-retraite.
Ouais, bénévolat aussi.
Le bénévolat.
Qui est en manque criant de personnes.
Qui est en manque criant, puis qu'on s'est aperçu encore plus en COVID, étant donné que les personnes aînées qui rentraient dans la catégorie, dans les 65 ans et plus, ne pouvaient pas aider.
Ah oui, en plus.
Par sécurité, pour leur propre santé. Donc, c'est une autre chose. Donc, les aînés, ce n'est pas des personnes en perte d'autonomie, c'est des personnes qui sont souvent très actives et beaucoup plus actives qu'on le voit. Regardez l'âge moyen des conseillers municipaux.
Ah oui, ben non, mais t'as raison, là. C'est des gens qui ont, une fois que justement que t'es pas en perte d'autonomie, que t'as toute ta tête, tu
peux être encore impliqués, actif. Ben oui, sont ouverts.
Il y a des gens qui sont aînés qui sont plus ouverts que des gens qui sont pas aînés, moi, te le dis.
Ben oui, mais il y a une phrase que j'aime bien, puis je l'utilise à toutes les sauces et tout le monde sourit, et j'espère que vous allez l'utiliser vous aussi. Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres.
Et l'âge est dans la tête. Hein?
C'est ça.
Parce que moi, je suis clairement plus jeune que toi.
Ah oui. Regarde les deux caméras, là. Mais, mais je veux dire, il y a de l'expérience, il y a des connaissances, il y a de l'ouverture. Donc, tu sais, il faut arrêter de voir les aînés comme les personnes en perte d'autonomie. Ça, c'est la première chose que je tiens à dire. Parce que quand on a fait l'AMADA, il y a des gens qui disaient, « Mais moi, je ne veux pas m'impliquer. J'ai encore toute mon autonomie. » Bien, tu es une bonne personne pour t'impliquer.
Oui,
parce que tu as l'énergie, tu as les connaissances, puis tu fais partie des aînés.
Dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire là, avec nos aînés? T'sais, moi, je sais, quand mon grand-père est encore en vie, j'essayais d'aller le voir toutes les semaines, au moins, plus que une demi-heure au moins.
Encore une fois, là, on vient de parler des personnes des Premières Nations. Mais qu'est-ce qu'un aîné veut, lui?
Se faire écouter. Ben, mon grand-père était sourd, fait que j'étais brûlé de parler avec, mais quand je lançais sur un sujet, elle arrêtait pas de parler. J'apprenais plein d'affaires, tu sais, sur sa vie ou sur...
Invitez-la à souper!
Ben oui.
Invitez-la à dîner, invitez-la à souper.
Mais pas juste l'inviter pour l'inviter,
invitez-la
pour l'écouter.
Pour l'écouter,
ils ont besoin
mais tu sais, sortir de la maison, ouais. Ou encore raconter les histoires, raconter, tu sais...
Le passé, le présent, le futur, les projets aussi, ça rend sa famille.
Tu sais... Donc, il y a ça.
On est bien paternaliste aujourd'hui.
C'est un peu pour ça que je suis un peu mal à l'aise. mais, tu sais, par exemple, de se poser des questions, de poser la question à une personne aînée de notre communauté. Qu'est-ce qui t'aiderait, toi, à être encore plus active dans la communauté?
Oui.
Parce que c'est pas des personnes qui ont dit, bon, ben moi, ça fait longtemps que je suis à la retraite, je veux plus rien savoir, je m'isole, puis personne vient de me voir. Ils ont leur propre vision, ils ont une réalité qu'on n'est pas au courant tant qu'on ne leur parle pas. Lors des consultations publiques, si vous saviez le nombre de projets inspirants, innovants que j'ai pu jaser avec des gens de l'âge d'or, des clubs de l'âge d'or, des communautés, j'ai trouvé ça inspirant et super le fun parce que faut se dire aussi, que ce qui est bon pour les marchettes est bon pour les poussettes.
Ah oui.
Une rampe d'accès.
Ben oui, ben oui. Ben oui.
Une rampe d'accès, c'est pas juste bon pour la marchette ou pour le quadriporteur. La maman avec une poussette, elle va en profiter elle aussi. Ah oui. Le fait d'avoir des points d'ombre dans des parcs avec des chaises berçantes, ben ce qui est bon pour les marchettes, c'est bon pour les poussettes. Ouais. C'est pas mal ça que je me dis aussi, mais c'est pas quelque chose qu'on se dit. Mais ça reste quand même une réalité. Demander l'avis avant de faire un projet.
Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on a la conception qu'être vieux, c'est attendre la mort, mais ils sont hyper actifs, ils ont plein d'activités, ils peuvent faire.
Puis ils ont de l'expérience. Quand on demande un avis pour un projet, ben tu sais, dans des communautés à travers le monde, dans différentes communautés, ben les vieux sages, c'est pas pour rien.
C'est nous, les vieux sages, en ce moment.
Sage, je dirais pas. Vieux, ça dépend par rapport à qui. Hein? On va se le dire, mais c'est pas une insulte d'être vieux.
Non,
pour moi, ce n'est pas une insulte, loin de là. Un vieux hoodie, c'est tellement le plus confortable. Ah, des vieilles pantoufles, on est-tu bien là-dedans?
Ouais, ouais.
Donc,
ouais,
tu sais, c'est... Encore une fois, les aînés peuvent être très actifs, peuvent apporter une énorme connaissance, puis... Tu sais, des projets, par exemple, dans une garderie, quand la pandémie mondiale sur laquelle on vit puis on est en train d'en sortir va diminuer, ben j'aimerais ça, moi, que ma fille, dans sa garderie, aille passer une journée dans une résidence.
C'est tellement une bonne idée.
Moi, j'ai hâte que le café des générations de parents ensemble recommence. J'ai hâte. C'est le temps, c'est l'échange. C'est... Moi, en tant que nouvelle arrivante, les grands-parents de ma fille ne sont pas ici. Avoir un contact avec des vieux sages, c'est toujours le fun.
Commentaire avant qu'on parte?
Oui. J'ai rencontré cette semaine quelqu'un dans un cours d'aquaforme que j'ai participé qui m'a reconnue. Et venez me parler, venez me donner votre opinion, venez nous en jaser, on est là pour vous.
Ouais. Puis même si vous n'êtes pas d'accord, c'est encore plus sain au niveau d'avoir un débat. C'est sain le débat en société. Merci, bonne semaine!